Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche, tous les jeudis matins de 9h à 11h, sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Bonsoir et bienvenue à 3600 secondes d'histoire. J'espère que vous allez bien. Ici Julie Franqueur à l'animation. Ça fait très longtemps que j'ai animé une émission de 3600, donc je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Encore plus heureuse parce que je suis en studio. Ça fait longtemps qu'on a fait des émissions en direct. Et je suis avec mes amis Myriam et Emmanuel. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Et aujourd'hui, on a une invitée, mais notre invitée, c'est Emmanuel Bernier, que vous connaissez très bien. Il est animateur à l'émission. On le reçoit aujourd'hui pour parler de ses recherches actuelles. En ce moment, il fait un doctorat ici à l'Université Laval et il travaille sur l'histoire de la presse, sur l'histoire de l'opinion publique. Donc, on le reçoit aujourd'hui pour qu'il nous parle de l'avancement de ses recherches et de ses découvertes de la dernière année. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, Emmanuel.
Fait plaisir.
Donc, vous avez compris que Myriam est à la console. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. C'est une histoire qui est assez méconnue au Québec puis qui est assez récente. Donc, ça nous amène à découvrir un peu le monde dans lequel on vit en même temps qu'on se familiarise avec le sujet. D'où t'es venu l'intérêt pour l'histoire de la presse et des relations avec le lectorat?
Ben d'abord, je suis un gars de journaux. J'ai toujours lu des journaux depuis l'adolescence. Je suis abonné au Soleil, au Devoir depuis longtemps. Je suis vraiment un mordu. Et puis, parallèlement à ça, j'ai fait une maîtrise sur un sujet totalement différent, sur l'histoire de la monnaie en Nouvelle-France. Mais il y a la question de la valeur qui a continué à m'intéresser. Je suis passé de la valeur monétaire aux valeurs, au jugement de valeur, hein, la valeur morale, la valeur aussi épistémologique, donc ce qui concerne le vrai ou le faux, qui sont des réalités qu'on voit beaucoup dans les journaux et notamment dans les courriers des lecteurs, là, qui est mon terrain d'étude, mon sujet pour le doctorat. Donc, je me penche sur les valeurs des auteurs de courriers des lecteurs dans les journaux québécois là, dans les années 60 à 90. Donc, d'où ce tournant pour moi là, de la Nouvelle-France à une époque beaucoup plus contemporaine. Un sujet aussi qui est beaucoup plus... d'actualité, là, évidemment, sans vouloir dévaluer les périodes plus anciennes. Je trouve ça important quand même de se pencher sur une période plus près de nous pour mieux comprendre aujourd'hui.
Ah ouais, puis avec l'idée de courrier du lecteur, on peut penser au concept d'opinion publique. Mm-hmm. Comment toi, tu le définis peut-être? Parce que j'imagine que l'idée qu'on en a aujourd'hui, ça a quand même évolué, là, disons, par rapport à ta période.
Oui, tout à fait. L'opinion publique, on l'invoque encore aujourd'hui. Les politiciens vont dire, par rapport à la COVID notamment, là, l'opinion publique veut ci, l'opinion publique veut pas ci. Mais l'opinion publique, c'est un concept qui date du 18e siècle, on va avoir l'occasion d'en reparler, qui d'abord concernait, les élites éclairées, lectrices de journaux, et puis qui va évoluer là, au cours du 19e siècle. Qui va prendre une extension, mais qui va changer là, de manière aussi qualitative. En fait, qu'est-ce que c'est l'opinion publique? C'est un peu l'ensemble des opinions, mais c'est pas nécessairement seulement qu'une agrégation des opinions individuelles, hein, mais c'est on voit ça un peu souvent de manière un peu monolithique, comme l'opinion publique là, au singulier, comme si tout le monde pensait un peu pareil. Les sondages aussi vont participer à cette idée-là là, d'une opinion publique en un seul bloc, mais comme on va le voir aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas.
Puis comment les journaux participent-ils à la création ou à la diffusion de l'opinion publique?
Grande question. Je commencerai par les premiers journaux. C'est que dès le départ, il y a cette dimension, il y a la dimension épistolaire qui est présente dès le départ.
Mais quels sont les premiers journaux là, pour les néophytes? Oui. De quelle période parle-t-on?
Bien, on parle du 17e siècle. Hein. C'est là qu'on voit la presse apparaître. Elle est,
donc, elle 17e?
Pas... Oui, 17e.
OK, quand même.
Et donc, comme je viens de dire, dès le départ, il y a la dimension épistolaire qui est très présente. Hein. On ne parlait pas de journaliste à l'époque, on ne parlait même pas d'éditeur. Alors, ceux qui produisaient les journaux, c'était des imprimeurs qui écrivaient quand même assez peu dans les journaux. En fait, le produit qu'ils vendaient, c'était plus un recueil de lettres, de correspondants qui discutaient, qui rapportaient souvent des faits par rapport au marché, par rapport à l'économie, par rapport à la politique. Dès le départ, cette presse-là va contribuer à créer une sorte de communauté de lecteurs qui va se représenter comme telle, qui va être attachée à la lecture de son journal. Et donc, même si on ne parle pas encore d'opinion publique, là, même si le concept n'existe pas encore au 17e siècle, on a quand même déjà cette opinion publique-là se manifeste quand même par les différentes lettres de lecteurs qui circulent puis qui s'influencent là, les unes les autres.
Puis, il apparaît à partir de quand, ce concept-là, là, d'opinion publique?
C'est vers la fin du 18e siècle. Et puis, faut dire que, bon, c'est... le philosophe Habermas en parle beaucoup dans son ouvrage « L'espace public ». C'est-à-dire un espace où l'on discute de la chose politique, mais en dehors des cercles officiels, là, parlementaires, par exemple dans les cafés, dans les bibliothèques, dans des clubs de lecture. Donc ça, c'est des lieux où on va se retrouver pour lire les journaux et pour discuter de la chose publique. Hein. Et c'est ça, c'est important de spécifier que c'est un espace public, c'est un espace qui est différent là, de la sphère parlementaire, mais qui est quand même... qui est loin de lui être indifférent. Là. Donc, cet espace public-là est formé surtout de gens qui s'intéressent à la politique. Donc, le prototype d'espace public, en fait, que décrit Habermas, est plutôt du côté de l'Angleterre. Hein. On sait qu'au 18e siècle, l'Angleterre connaît un essor important du parlementarisme avec plusieurs partis qui s'affrontent. Et il y a cette importance d'amener ce qui se parle là, dans les cercles restreints du pouvoir dans cet espace public. Mais c'est un espace public qui reste quand même plutôt restreint parce que, bon, ceux qui s'intéressent à la chose publique, ben, ce sont les électeurs qui sont à cette époque-là, bon, masculins, qui sont surtout de la classe possédante. Donc, ça reste quand même un espace public qui est plutôt restreint.
Puis le monde évolue beaucoup au 19e siècle, justement. L'accès à la propriété, aux droits démocratiques, c'est assez important. Est-ce que l'opinion publique suit ces grands mouvements-là? Comment va-t-elle évoluer au cours de ce grand siècle d'évolution et de changement, de bouleversement même?
Mmh. Oui, tout à fait. C'est à ce moment-là que l'opinion publique va prendre un peu la couleur, va prendre cette dimension, cette signification-là qu'on lui connaît davantage aujourd'hui comme l'opinion de tous, un peu, là, si on veut. Même des journaux comme en France, par exemple, qui va s'appeler l'opinion publique. Donc, comment ce changement-là se fait? Bon, faut dire qu'il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués. C'est difficile de dire, un peu comme l'œuf et la poule, là, qu'est-ce qui vient en premier. Mais on a d'abord l'industrialisation. Tout ça va suivre l'industrialisation parce que jusque dans les années 1820 environ, on imprime encore les journaux à bras avec des presses assez rudimentaires qui ont assez peu changé finalement depuis Gutenberg. Et du coup, ben, on peut pas produire tant de journaux qu'on le voudrait. Si on veut en produire plus, ben, il faut avoir plus de presse, plus d'hommes pour les activer aussi. Donc, c'est un produit qui est très coûteux et qui, donc, par conséquent, va être plus consommé par des personnes plus dans le haut. de l'échelle sociale. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce que, comme je l'ai dit, il y a quand même des cafés, il y a quand même ces lieux qui vont s'abonner à des journaux, donc où on va aller et on va s'adonner une lecture collective du journal aussi, une lecture à voix haute aussi parfois, et où on va échanger aussi sur ce qui se trouve dans ces journaux. Et là, avec les années 1820, 1830, on va voir apparaître les premières presses à vapeur, donc là, peu à peu, il y a des innovations assez importantes qui se font jour. Et peu à peu, là, jusque dans les années 1860-70, on a, à un moment donné, on arrive et on a la presse rotative qui, là, n'utilise plus une plaque, plate, mais un cylindre qui va s'activer. Et puis, tout d'un coup, on va être capable d'imprimer beaucoup plus de journaux pour un prix beaucoup plus faible et donc d'en vendre beaucoup plus. C'est là qu'on va voir naître, par exemple, ce qu'on appelle la penny press, là. Donc, au lieu que les journaux coûtent, par exemple, 10 centimes, ben, ils coûtent, ou ben, 10 pennies, ben, ils coûtent 1 penny. Et ce qui va permettre ça, c'est non seulement, j'ai parlé des changements techniques, mais c'est également l'avènement de la publicité. Ça, c'est extrêmement important dans l'histoire des médias. C'est-à-dire que maintenant, on vend plus seulement le produit, on ne vend plus nécessairement un journal au lecteur, c'est-à-dire que oui, on continue à le faire, mais en même temps, on vend le lecteur aux annonceurs. Et ça va entraîner un changement assez important dans l'opinion publique, parce que non seulement, bon, beaucoup plus de gens lisent le journal, mais ce qui va être aidé également par l'essor de l'alphabétisation aussi, l'essor aussi c'est-à-dire l'élargissement du suffrage aussi, qui va être accessible à de plus en plus de personnes, mais également, c'est un changement qui va être également qualitatif, parce que qui dit publicité, dit annonceur, et les annonceurs, ils veulent des lecteurs, donc ils veulent des lecteurs qui ne seront pas trop effarouchés par des positions politiques qui vont être peut-être trop tranchées. Donc, même si les journaux d'opinion demeurent, et puis demeurent encore jusqu'à nos jours, on va quand même voir plutôt une mainmise des journaux de la presse plus populaire, qui va mettre l'accent davantage sur le divertissement, sur la publicité, évidemment. On pense aux fameux romans feuilletons qui sont à l'époque très, très populaires, là, qu'on va voir même ici au Québec jusque dans les années 1940-50. Donc, c'est une presse plus de divertissement. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une presse qui n'est pas du tout politique, mais donc cette dimension d'opinion publique, elle va être moins présente parce que c'est une presse qui est davantage portée vers le divertissement.
Puis au Québec, en fait, comment le Québec s'insère dans cette évolution-là de l'opinion publique?
Bien, l'évolution au Québec n'est pas tellement différente de ce qui se produit aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, etc. Elle est juste un petit peu plus tardive. Il faut dire que c'est un marché qui est plus petit, hein, en comparaison des États-Unis, par exemple. La presse, la grande presse ici, à grand tirage, va davantage apparaître dans les années 1870-1880. Avec la presse, avec la Patrie et des journaux anglophones aussi à Montréal. Donc, mais sinon, on a le même type de presse. C'est un phénomène vraiment transnational. Au Québec, on va avoir des influences à la fois anglophones, donc avec des influences de l'Angleterre ou des États-Unis, puis également une certaine influence française aussi avec la presse d'opinion qui va quand même être assez présente aussi ici.
Au début, tu as parlé de la vision de l'opinion publique comme un bloc monolithique, mais là, on comprend peu à peu que tu sous-entends qu'il y a plusieurs opinions publiques. Pourquoi parler d'opinion publique au pluriel?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire cette opinion publique-là, elle est... c'est-à-dire faut pas nier qu'il y a quand même un aspect... je dirais pas monolithique, mais un aspect unificateur. Oui, il y a des valeurs, comment on va dire, transpartisanes, transclasse, etc. Là, il y a certains éléments, certaines idées qui rassemblent, qui vont former une certaine opinion publique, mais en général, les opinions publiques vont se segmenter selon les types de presse. Donc, selon journaux politiques, journaux de divertissement, on a aussi une presse très spécialisée qui apparaît à l'époque, presse féminine, qui existe. En fait, la plupart des presses qui existent aujourd'hui vont naître à l'époque. Journaux pour enfants, une presse plus scientifique, une presse économique. Alors, tous ces différents périodiques vont être liés chacun à des opinions publiques, c'est-à-dire à des communautés de lecteurs différentes qui ont leur particularité selon la classe sociale, le genre, etc., etc.
Puis tu mentionnais tantôt, tu en as déjà un petit peu parlé, là, de l'avènement de la publicité, la présence des romans feuilletons. Comment cette presse-là, qui est peut-être moins politisée, quel rapport ils vont avoir avec les lecteurs, justement?
Oui, il ne faut pas penser que, bon, on dit presse plus populaire, moins politisée, mais faut pas penser qu'il s'agit d'une presse qui... faut pas penser à une presse dont les lecteurs seraient passifs, et c'est loin d'être le cas. Premièrement, il y a un lien, il y a des relations qui sont faites avec le journal et son lecteur de multiples manières, notamment dans le paysage urbain. C'est à cette époque-là qu'on voit apparaître tous les kiosques de journaux, les vendeurs à la criée, les kiosques dans les gares. Les journaux font... Bon, on a parlé de l'aspect de la publicité qui est très important, mais les journaux font aussi leur propre publicité qui est souvent très criarde, hein, des grands panneaux réclament. On fait des concours aussi, des loteries, des sondages, on fait tirer des voyages, on donne avec un abonnement ou tel exemplaire, on donne, je sais pas, tel article promotionnel. Donc, il y a quand même une relation, on veut vraiment intéresser le lecteur, on est dans un contexte aussi de concurrence assez importante. Et les lecteurs vont aussi écrire à leurs journaux de manière assez importante, notamment par rapport aux romans feuilletons. Hein, tu sais, on pense qu'aujourd'hui, on pense je sais pas comment on appelle ça, la littérature interactive où le lecteur prend part au processus, mais ça existait déjà à l'époque. Là. Les lecteurs écrivaient aux journaux pour dire « Ah ben moi, j'aurais aimé ça qu'il se passe telle chose dans le feuilleton. » Puis évidemment, l'auteur avait tendance parfois à se mouler un peu là-dessus aussi.
On pense à Sherlock Holmes qui n'aurait pas dû mourir.
Ouais.
le journalisme d'information va progressivement succéder au journalisme d'opinion au tournant du 20e siècle. Quelles sont les répercussions de cette évolution-là sur l'expression de l'opinion publique dans l'espace public?
Oui, ça, ces concepts-là, j'aurai l'occasion de préciser, mais c'est ces différents paradigmes du journalisme viennent de deux chercheurs de l'Université Laval. Qui parlait au départ d'un journaliste de transmission, hein, dès le départ, où on transmettait des informations, ensuite d'un journaliste d'opinion. Et là, à un moment donné, graduellement, là, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais avec l'avènement de la presse à grand tirage, et plusieurs facteurs vont faire qu'on a une presse qui va être davantage d'information. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'information avant, là, mais ça veut dire qu'on met davantage l'accent sur l'information, sur le factuel. Donc, tout ça va être expliqué encore là par plusieurs facteurs, notamment par l'invention, la création de nouveaux genres journalistiques comme le reportage. On va arrêter de... Parce qu'au 19e siècle, souvent, on faisait ce qu'on appelle du journalisme assis. On coupait dans d'autres journaux, puis on... Il y avait beaucoup de plagiat, là. pas toujours très licite. Donc, on va passer de ce journalisme assis à un journaliste plus debout, hein, la naissance du reporter qui va aller chercher la nouvelle et qui ne va pas l'attendre. Et il y a aussi la naissance de cette objectivité journalistique qu'on va voir d'abord plus peut-être dans les pays anglophones où on veut moins, comme à la fin du 19e siècle, conter une bonne histoire, quitte à triturer un peu la réalité, que raconter les faits tels qu'ils sont. Hein? Donc, c'est... Et dorénavant, le journal va vraiment aller très loin dans une volonté d'être objectif. Et il y a aussi un autre phénomène qui est assez important pour cette propension à l'objectivité, à la neutralité, c'est la naissance des agences de presse qui, on les connaît aujourd'hui encore, la presse canadienne, l'agence France Presse, etc., qui naissent là, dans les années 1840-1850 avec l'arrivée du télégraphe. Et comme ces agences de presse vendent le même produit à des journaux de différents types, de différents types d'allégeances politiques notamment, bien, on va chercher à avoir des nouvelles qui soient le plus objectives, qui fassent le plus consensus. Et il y a également, sur le plan plus technologique, il y a le télégraphe qui coûte très cher, dont l'utilisation coûte très cher, et on va chercher vraiment à coller aux faits, à aller à l'essentiel, donc avoir des nouvelles plus brèves. Tout ça va concourir à avoir un journaliste davantage d'information. Et ça va avoir un impact aussi sur la relation du journal avec son lecteur. Parce qu'à ce moment-là, on va, dans plusieurs journaux, là, on va voir, disons, plutôt mis au rancard les lettres de lecteurs. Sauf dans quelques cas, bon, le New York Times, par exemple, les grands journaux. Le Devoir va en publier de temps en temps, mais en général, là, je dirais des années, du début du 20e siècle jusqu'aux années 60, en Occident, à peu près partout, on voit à peu près la disparition des courriers des lecteurs, sauf les courriers du cœur, qui est un autre phénomène, mais qui est quand même différent, parce que souvent dans les courriers du cœur, on n'exprime pas une opinion, on demande à la courriériste de donner son opinion à elle. Donc, c'est une autre forme, même si, bon, certaines lectrices, après ça, vont donner leur opinion sur l'opinion de la courriériste, là. Mais, donc, c'est un phénomène quand même différent.
Puis, il y a un nouvel outil qui apparaît dans les années 30-40 pour mieux connaître l'opinion des citoyens. Peux-tu nous en parler davantage?
Oui. Bien, en fait, c'est le sondage. Il y a, à partir des années... 1930-40, mais quand même, c'est tout ça est préparé par une certaine idéologie qui fait qu'on pourrait connaître l'opinion publique de manière scientifique. Et c'est à ce moment-là que naissent les sondages, aux États-Unis notamment, en France assez rapidement aussi, et où on veut... où à la fois les élus et à la fois les médias vont vouloir connaître l'opinion publique de manière, à l'époque, on croyait scientifique. C'était beaucoup critiqué par Bourdieu, notamment, là, au début des années 70, qui a dit dans une boutade que l'opinion publique n'existe pas. Bon, c'est un peu provocateur, mais c'est pas faux. Quoi qu'il faut pas non plus rejeter les sondages. Et il faut dire aussi que depuis que Bourdieu a dit ça, bon, ça fait quoi? Ça fait 50 ans, la science des sondages a beaucoup évolué. Mais la principale critique que lui faisait, c'était cette question de l'imposition de problématiques, c'est-à-dire qu'on questionne des citoyens sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas nécessairement connaissants, sur lesquels ils ne sont pas nécessairement à l'aise, ce qui fait que les réponses sont passablement tronquées. Mais bon, comme je dis, cela dit, c'est un outil quand même important, mais qu'il faut prendre avec des pincettes.
Un peu élitiste de croire que les gens n'ont pas d'opinion sur des sujets qui sont... disons, un peu plus poussé ou un peu plus complexe. Mais c'est très intéressant. On va continuer d'en parler après la courte pause musicale qu'on va avoir dans quelques minutes. Ben, tout de suite. Emmanuel a choisi pour cette émission des musiques de trames sonores de films qui parlent de journalisme pour être, bien sûr, dans la thématique d'aujourd'hui. Et pour commencer, on va entendre la finale du film Dolce Vita de Fellini, une musique de Nino Rota. Thank you.
Vous écoutez Schiste 94.3 FM à Québec.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Schiste pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Schiste 94.3. Cet été, Schiste 94.3 redevient baseball et on vous présente les matchs locaux de l'équipe Québec sur les ondes FM. La formation qui regroupe des joueurs des Capitales de Québec, des Aigles de Trois-Rivières et des Titans d'Ottawa disputeront une série de matchs au Stade Canac de Québec. La première série sera du 30 juillet au 1er août contre les Boulders de New York. Toutes les heures complètes seront disponibles sur le schiste.ca.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Jeanne d'Arc, tu dois libérer la France du joug de l'anglais.
Est-ce que ça peut attendre? C'est 3600 secondes d'histoire.
Oh! Est-ce que je peux me tirer une bûche? On n'en a pas pour 100 ans.
Eh oui, vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, on reçoit Emmanuel Bernier pour parler d'histoire de la presse, de l'opinion du public, des allers-retours, des dialogues entre la presse et le lectorat. Et on est en train d'explorer l'évolution de la presse, de ses fonctions, de ses objectifs au cours du 20e siècle. Et à partir des années 60, on en vient à parler d'un journalisme de communication plutôt que d'un journaliste d'opinion ou d'information. Pourquoi?
Oui, encore là, bon, comme pour le journaliste d'information, c'est pas qu'il n'y avait pas de communication avant, là, évidemment, mais c'est qu'on met l'accent sur cette fonction-là, c'est-à-dire ben, plus spécifiquement sur ce qu'on appelle en linguistique la fonction phatique de la communication, c'est-à-dire c'est celle qui ne concerne pas le message, mais l'interaction. Hein, comme quand vous dites « Allô, ça va », par exemple, ben, c'est pas le message n'est pas important, là, c'est juste pour établir une interaction. Ou quand vous dites est-ce que vous comprenez, ça va, tu sais, mettons un professeur veut s'assurer que l'interaction est bonne.
Il n'y a pas toujours de l'interaction avec ces questions-là.
Non, c'est surtout sur Zoom. Et donc, cette fonction phatique va prendre le pas sur celle de l'information à partir, grosso modo, des années 60, dans un contexte de concurrence aussi. Hein. Les années 60, ben, c'est la télévision. Bon, la radio existe quand même depuis quelques décennies. Concurrence entre les journaux aussi. Donc, il y a cette volonté d'établir vraiment une relation avec le lecteur. Donc, et c'est à ce moment-là, justement, qu'on va voir réapparaître les courriers des lecteurs dans plusieurs endroits. Dans les années 60-70. Dans les années 50, ici au Québec, les courriers des lecteurs, là, il y avait très, très peu, un peu dans le devoir. À partir du début des années 60, tout d'un coup, tous les journaux s'y mettent. Le Soleil, la presse, etc. On voit la même chose en France, on voit la même chose en Italie et un peu partout ailleurs. Donc, et puis, ça se manifeste aussi par les chroniqueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de chroniqueurs. Certains disent trop dans les journaux. Ça relève aussi de cette dimension de communication aussi, de vraiment d'établir un lien direct avec le lecteur.
Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'un forum qui est démocratique, qui est ouvert à tous, ou justement, il y a peut-être des limites qui sont imposées par la presse, entre autres, mais peut-être d'autres facteurs, d'autres barèmes?
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Cette idée d'un forum démocratique là, ouvert, elle circule beaucoup. Il y a des études qui ont été faites où certains chercheurs ont interviewé des personnes responsables là, au sein des rédactions qui sont responsables de la publication des courriers des lecteurs. Et puis bon, c'est sûr qu'eux vont manifester leur volonté de faire de ces lieux-là des forums ouverts là, à tous où chacun peut exprimer son opinion. Dans les faits, c'est plus ou moins le cas. Pour plusieurs raisons. Des questions d'espace, d'abord. Bon, certains journaux locaux qui ont un lectorat plutôt réduit vont pouvoir publier à peu près toutes les lettres qu'ils reçoivent. du moment que c'est lisible, qu'il n'y a pas d'insultes, de gros mots, là, donc on peut publier à peu près tout. Mais plus on monte plus on va dans des journaux qui sont des journaux importants, qui ont des grands lectorats, on pense au New York Times, on pense au Monde, et plus, on parle quand même de journaux qui reçoivent des centaines de lettres par jour. On en publie quoi, je sais pas, 5-6, donc on parle d'un pourcentage très petit. Alors, c'est là que va intervenir ce qu'on appelle la fonction de gatekeeper des médias. Difficile à traduire en français, là, gardien de porte, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un peu une évidence, mais c'est important de le rappeler puis de le théoriser, c'est que les médias vont choisir ce qu'ils livrent comme information. Donc, selon différents critères, là, leur positionnement éditorial, etc., etc. Mais ça, cette fonction de gatekeeper, elle s'applique aussi au courrier des lecteurs. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, les lettres qui vont être les plus choisies, ça va avoir tendance à être des lettres qui se moulent dans le moule journalistique, si on veut. Donc, qui vont être brèves, qui vont être assez factuelles, qui vont être bien écrites. Donc, les journalistes ont tendance à avoir un biais, puis ils vont choisir un peu les textes qu'eux auraient écrits, là, presque. Donc, il y a ça qui entre en ligne de compte, donc qui fait jouer aussi la question du capital culturel. Quoiqu'il y a certains journaux, quand même, qui manifestent une volonté de quand même de publier parfois des lettres pas si bien écrites, mais ils vont en revenir, ils vont parfois appeler ou écrire au lecteur pour retravailler la lettre et tout. Mais ça, c'est quand même plutôt rare, là. Et il y a aussi la question de... j'ai oublié ce que je voulais dire... voilà.
La question des valeurs ou des angles d'approche, des sujets qu'on veut prioriser, on peut se demander si justement le tri n'est pas fait à ce niveau-là aussi.
Oui, tout à fait. Il y a la question de la ligne éditoriale, évidemment. Il y a des journaux qui vont plus avoir tendance à publier ce qui leur fait plaisir, mais c'est loin d'être toujours le cas. Notamment, il y a certains journaux plus populaires, parfois plus des tabloïdes, qui vont avoir tendance à vraiment comme opposer là, directement pour ou contre. Donc, pour ou contre telle chose. Alors là, évidemment, on a une plus grande diversité. Là. Donc, cette question de l'idéologie, des valeurs, va quand même entrer en ligne de compte.
Puis est-ce que as-tu réussi à établir peut-être un profil des gens qui écrivaient pour le courrier des lecteurs ou qui étaient publiés plutôt là, par le courrier des... par les journaux?
Oui, c'est important de faire la distinction entre les lettres qu'on reçoit et les lettres qui sont publiées. À peu près tous les auteurs, puis moi je l'ai remarqué aussi dans mes recherches, sont d'accord pour dire que ce sont des lettres qui sont très masculines. Ça tourne autour de 75% de lettres qui sont écrites par des hommes. Et c'est pas nécessairement une question de sélection, c'est que c'est souvent les journaux reçoivent peu de lettres écrites par des femmes. Alors, la plupart des équipes éditoriales vont se dire très soucieuses là, de représentativité, mais certaines journées ne vont tout simplement en recevoir aucune. Alors, il y a cette question-là du genre qui est assez importante. Il y a la question de l'âge aussi. C'est souvent des hommes retraités.
Qui ont le temps d'écrire. Ça joue aussi peut-être pour les femmes
Oui, tout à fait.
Qui sont très occupées dans la maisonnée jusqu'à dans les années 70 et même après.
Oui, tout à fait. Puis il y a cette idée enracinée encore aujourd'hui que, la politique n'est pas faite pour les femmes. Alors certains intériorisent peut-être ça et que ça fait qu'on ose moins écrire. Malgré tout, certains ont quand même étudié les lettres qui sont produites par des femmes. Puis ils s'aperçoivent qu'il y a quand même des caractéristiques différentes. Par exemple, les femmes vont avoir tendance à plus avoir recours au « nous », plus des lettres qui vont être moins... dans le moi, moins dans l'expérience personnelle, mais qui vont plus chercher à aller dans le collectif. Donc, un portrait type, donc on parlait d'un homme, blanc, plutôt âgé, avec plutôt diplômé, plutôt aisé, donc, et souvent plutôt conservateur aussi.
Je parle à travers mon chapeau, là, mais c'est pas étonnant si les journalistes veulent publier et ont tendance à publier les textes qui leur ressemblent, qui ressemblent à ce qu'eux auraient écrit. Tu viens de décrire exactement leur profil à eux, des hommes d'un certain âge, instruits, blancs, aisé. Donc, mm-hmm. c'est pas très surprenant.
Ouais.
Est-ce que quand même, il y a des journaux qui ont plus tendance à aller dans la marge, à mettre l'accent sur des, disons, des sujets ou des thématiques ou des profils de courriers des lecteurs plus originaux?
Bien, je pense qu'il faut aller dans la presse plus spécialisée. Là. Mm-hmm. On va en parler. Bien, je peux en parler tout de suite. Là. La notion de contre-public... qui a été proposée par la philosophe Nancy Fraser en réaction à Habermas. En fait, elle trouvait que cet espace public dont Habermas parle est beaucoup trop bourgeois, masculin, etc. Donc, cette notion de contre-public, c'est-à-dire c'est des publics, on peut dire des opinions publiques parallèles qui vont évoluer dans des médias qui sont spécifiques. Hein, on pense à la presse féminine. On pense à la presse ouvrière, on pense à la presse noire aux États-Unis aussi, puis etc. Là, on pourra avoir plusieurs autres exemples où on va se retrouver. On pourrait se parler d'un safe space journalistique, là, où on va échanger sur... Puis le Courrier du Cœur en est un aussi, même à l'intérieur des journaux plus... journaux à grand tirage, comme la presse, le Devoir, etc. On retrouve ces courriers du... je dis le Devoir, je suis pas sûr, mais bon, la presse, le Soleil et plein de journaux, on retrouve ces courriers du cœur qui permettent là, de donner des conseils sur différentes choses.
Au Québec, est-ce que tu as, puis là je demande ça comme ça, est-ce que tu as des exemples justement de ces journaux-là qui sont apparus, qui étaient plus de la contre-public justement? Notamment, je sais que dans les milieux féministes, il y en a, mais justement, c'est la presse noire. Moi-même, j'en connais pas. Fait qu'est-ce que t'as... Est-ce que ça t'est venu là, dans tes recherches, peut-être? T'en as vu voir?
Oui, ben au Québec, d'abord, il y a les journaux anglophones. Est-ce qu'on peut parler d'une minorité? Oui, quand même, au Québec, oui. Mais il y a eu des... Il y a eu encore des journaux italiens, allemands, en guidiche, pardon, je cherchais le mot. Et il y a eu, bon, évidemment, il y a presse féminine, il y a eu comme Châtelaine, par exemple. Il y a eu comme La Terre de chez nous pour les agriculteurs. Donc, oui, comme partout. C'est sûr, bon, je ne suis pas au courant d'une presse noire au Québec, mais il y en a aux États-Unis. Il y a le célèbre Chicago Defender qui existe depuis... qui existe encore, je pense, depuis au moins un siècle et qui a permis, là, à... d'échanger des idées sur des sujets qui touchaient les Afro-Américains. C'est un journal, comme le nom le dit, qui était publié à Chicago, mais qui était diffusé partout aux États-Unis, puis qui donnait parfois des conseils, par exemple, aux Noirs du Sud. On disait, il n'y a pas d'emploi chez vous, venez dans le Nord ici. Puis il y en a plusieurs qui s'en venaient dans le Nord pour avoir des emplois mieux rémunérés, par exemple.
C'est sûr aussi que plus les groupes sont petits, marginalisés, moins ils ont de financement, donc ça se peut qu'on n'ait pas les traces parce qu'il y a eu 3-4 numéros puis après c'est tombé.
Ouais.
Donc c'est sûr, c'est plus difficile à étudier. Comme toujours, les personnes marginalisées sont plus difficiles à retrouver dans l'histoire à cause des archives.
Oui, ouais, exactement. Puis souvent, mais c'est ça. Puis comme tu parles, il y a eu d'innombrables journaux qui ont eu des fois 1, 2, 3 numéros puis qui ont disparu. Là, alors,
malheureusement pour nous. si on revient, disons, à ton profil type là, de courrier des lecteurs qui laisse entrevoir peut-être l'opinion publique avec un grand O, de quel type de sujet on parle? Qu'est-ce que tu as trouvé dans ton analyse?
Oui, en général, les gens écrivent... des sujets très, très différents. Puis c'est ce qui est passionnant. Je veux dire, après avoir travaillé sur des actes notariés pendant mon mémoire de maîtrise, alors là, on est dans un autre extrême. Mais les principales raisons pour lesquelles les gens écrivent, elles sont différentes. Mais d'abord, ça peut être pour les gens... c'est les gens qui le disent eux-mêmes. Ça va être pour se vider le cœur. Parfois, c'est très émotif. Hein. Parfois, ça peut être tout simplement... Il y a des gens que c'est une routine. Hein, on écrit une lettre par semaine. Parfois, une par jour. Même parfois, c'est presque pathologique. Là. Il y en a qui en écrivent beaucoup. Donc, ça peut être une routine. Ça peut être pour le plaisir d'écrire. Ça peut être pour la volonté de remplir un devoir de citoyen aussi. Je dirais qu'il y a trois types de lettres. Là. Il y a les lettres plus monologiques, si on veut, où la personne amène un sujet qui n'est pas nécessairement en réaction à quelque chose qui est de l'actualité ou à une autre lettre, qui amène un sujet... Bon, par exemple, il m'est arrivé telle chose dans ma vie, c'est bien, c'est mal, etc. Bon. On a l'aspect plus dialogique, où là, qui n'est pas le cas de toutes les lettres, là, mais quand même, où on va répondre à soit à des journalistes ou soit à d'autres lecteurs. Donc, où ça peut parfois aller dans la polémique. Et il y a d'autres lettres qui vont plutôt qui vont toucher aux médias comme tels, hein, qui vont dire ah ben telle information dans tel article c'est pas bon, il faudrait remplacer ça, etc., etc. Et on peut aussi faire une typologie aussi selon le langage, on pourrait dire selon la grammaire axiologique. Là, c'est un grand mot pour dire c'est tout simplement axiologique, c'est ce qui concerne les valeurs. Donc c'est parce que c'est sûr qu'à peu près 99% des lettres concernent des valeurs. C'est bien rare qu'on va juste donner des faits, là. Hein? Donc, c'est-à-dire que la personne va vouloir partager sa conception du monde. Donc, on va dire telle chose est bien. Mais un deuxième type de ben, bien ou mal, là, et un deuxième type de lettre va dire bon, oui, cette chose est bien ou mal, mais il faudrait faire telle chose pour y remédier. Hein? Donc, ou pour la qu'elle persiste. Hein? Donc ça, on est plus dans l'appel à l'action, dans un appel à la mobilisation, ce qui n'est pas le cas de toutes les lettres.
Puis je trouve ça intéressant ce que tu disais un peu plus tôt. Ce que je comprends, c'est qu'il y a des gens qui reviennent dans les courriers des lecteurs. Ça, je trouve ça quand même vraiment intéressant. Il y a des gens que c'est comme leur espace à eux sans être journaliste, en fait. Sont récurrents, là.
Oui, puis ça, on en voit au Québec, là, je n'aimerais pas de nom, mais il y en a souvent, il y en a beaucoup. Et souvent, ils réussissent à être publiés parce qu'ils connaissent, à la longue, ils connaissent bien les trucs pour être publiés, mm-hmm. hein, en question de longueur de texte, de etc. Donc, les rédactions aiment bien ça. Ça fait des lettres déjà bien formatées.
Est-ce qu'il y en a qui deviennent chroniqueurs attitrés après le...
Ben, tu ris, mais ça arrive.
Mais c'est sûr, c'est le même type de travail, ben, en fait, là.
Oui, sauf que, bon, c'est bénévole, mais il ouais. ben, y en a, si je me rappelle bien, Louis Cornelier au Devoir avait raconté avoir déjà écrit des lettres comme ça dans les années 90, et puis à un moment donné, ben, je sais pas comment, mais il est devenu chroniqueur, voilà. Donc, ça, oui, ça arrive. Oui.
Pour des femmes aussi, je crois que c'était peut-être des fois un moyen de donner leur opinion, mais tu sais, sans avoir nécessairement de plateforme, là, d'avoir une certaine place.
Oui, tout à fait. Une époque où les journalistes femmes étaient quand même beaucoup moins présentes, oui, ça, tout à fait.
Puis ben là, j'anticipe un peu, mais comment vas-tu jongler avec tout ça dans ton doctorat? Là, c'est, si j'ai bien compris, c'est plus issu de ta revue de littérature, de ta compréhension de ton sujet. Tu commences, là, ben presque la moitié de ton cursus de fait, là, mais où veux-tu aller, toi, personnellement, avec cette histoire de l'opinion publique?
Ben moi, je veux étudier comment les valeurs des différents auteurs... Bon, moi, j'ai choisi, en fait, trois journaux contrastants, là, Le Devoir, Le Soleil et La Tribune de Sherbrooke, pour voir comment... Bon, quelles sont les valeurs des lecteurs, des lectrices? D'abord, ces valeurs-là, quelles sont-elles? Puis comment elles sont justifiées? Parce que ça, c'est assez important. On peut dire, moi, par exemple, la famille, c'est important, mais pour différentes raisons. Hein. Les justifications peuvent être très diverses. Donc, la question des principes qui régissent ces valeurs-là, ça, c'est ce qui m'intéresse. Ce qui est intéressant aussi, comment aussi la subjectivité s'inscrit dans ces lettres-là. Bon, par exemple, je parlais tout à l'heure de la question des femmes qui vont plus utiliser le « nous ». Bon, est-ce que les hommes utilisent plus le « je » ? Est-ce que, bon, etc. Ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Comment ces valeurs-là changent dans le temps, dans l'espace aussi, parce qu'on a on a quand même des auteurs qui... parce que la plupart du temps, les gens écrivent où ils habitent, même parfois dans les années 60, l'adresse exacte avec le numéro de téléphone et tout. Là. Alors, on peut presque faire une cartographie des auteurs de lettres de lecteurs. Et donc, oui, comment ça évolue dans le temps, selon, évidemment, la conjoncture politique. Hein? On sait qu'au Québec, dans les années 70-80, il se passe quand même beaucoup de choses tout à fait intéressantes, une effervescence politique. Alors oui, c'est de voir comment ça évolue dans le temps selon des caractéristiques qu'on peut savoir, comme le genre, comme le lieu de résidence, et puis aussi comme des catégories socioprofessionnelles qui sont loin d'être toujours écrites, là, mais qu'on peut savoir quand même assez souvent.
Oh, ben, c'est intéressant, puis ça s'inscrit bien aussi dans les débats actuels sur la place des médias sociaux dans la diffusion des opinions personnelles.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis les médias sociaux vont quand même... Les opinions qui sont partagées sur les réseaux sociaux ont quand même une dimension qui est très différente parce que la modération est à peu près...
nulle.
C'est à peu près nulle, sauf si vous dites vraiment des horreurs. Là.
Même à ça, des fois, c'est difficile de signaler certains propos.
Non, c'est ça. Et puis, alors que c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, la plupart des journaux ont quand même des sections de courrier des lecteurs. Parce que il y a une certaine, ben, un certain prestige, hein, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui est fait par le journal. Et les journaux aiment ça aussi parce que ça permet de justifier un peu leur existence. Hein, de dire voilà, les lecteurs réagissent, sont d'accord avec nous ou pas. Alors ça reste quand même une tribune qui est relativement, qui garde son utilité.
C'est intéressant, mais là je reviens à nos moutons, là, le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Tu parlais de la fonction dialogique du courrier des lecteurs. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est la raison d'être du courrier des lecteurs ou non?
Ben, pas nécessairement, parce que c'est sûr que ce qui est intéressant avec la dimension dialogique, c'est que souvent les gens vont plus expliciter les principes qui fondent leur valeur. Parce que plus on s'obstine, plus à un moment donné, on est obligé de dire sur quoi on se fonde. C'est-à-dire que c'est de remonter au pourquoi. Hein? Ben oui, OK, moi, la solidarité ou le travail ou la famille, c'est une valeur. Pas moi. Ah, ben pourquoi? Pourquoi ça? Donc, finalement, ça permet aux auteurs, ben, en fait, ça les oblige à expliciter c'est leur justification. Alors ça, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Mais comme je disais, c'est ça, la dimension dialogique, elle est loin d'être toujours là parce qu'on a souvent des gens qui... C'est sûr que les gens vont toujours réagir à quelque chose, là, mais c'est pas toujours... ils réagissent pas toujours à des lettres qui sont là. Et parfois même, justement, je suis en train de faire une recherche pour un article, puis à un moment donné, c'est que bon, les gens renchérissent, bon, on traite d'un sujet, bon, une semaine après, l'autre répond à l'autre, mais là, à un moment donné, après un mois, le journal écrit ben là, ça va être tout pour le moment sur ce sujet parce que ça tourne en rond, il n'y a pas de nouveaux arguments, puis à moins qu'il y ait des faits nouveaux ou des arguments vraiment qui apportent de l'eau au moulin, ben on va mettre le couvercle sur le chaudron, là.
Puis on parle beaucoup d'individus, mais est-ce qu'il y a des associations ou des groupes qui vont écrire aussi au courrier des lecteurs?
Oui, tout à fait. C'est beaucoup plus le cas aujourd'hui, en tout cas dans moi, ce que j'observe, que dans les années 60, par exemple. Oui, parce qu'aujourd'hui, on voit souvent quelqu'un qui écrit au nom de tel groupe ou des signataires multiples, mais on voit beaucoup moins ça. Puis il y a quand même, en général, il y a quand même, chez beaucoup de journaux, une méfiance par rapport... Peut-être moins aujourd'hui, là, mais je dirais peut-être plus dans les années 60-70, une méfiance par rapport à ces groupes qu'on voyait un peu comme des lobbies qui voulaient comme trop influencer. Puis surtout, quand ça vient de la part de partis politiques, ça, les journaux souvent veulent rien savoir. Puis souvent, parfois, c'est déguisé. Là, une personne écrit... écrit au nom d'un parti... Ben, tu sais, je ne dis pas qu'elle écrit au nom d'un parti politique, mais c'est ça pareil. Puis les journaux, à un moment donné, apprennent à voir entre les lignes, là.
Il y a une question qu'on n'a pas abordée. On a abordé le genre, le statut économique, mais il y a l'aspect de l'âge qui doit être intéressant aussi à étudier parce que j'ai pas l'impression... Encore une fois, je suis très néophyte, là, je dis toujours ça, mais c'est vrai. J'ai pas l'impression que les jeunes ont beaucoup tendance à écrire au courrier des lecteurs. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus?
Oui, c'est vrai.
Les jeunes, disons, moins de 40 ans.
Oui, c'est ça.
Pas les enfants, là,
ouais.
C'est sûr.
oui, c'est vrai, puis... Bon, moi, dans le cadre de mes études, c'est difficile de le dire parce que, bon, moi, ma source, c'est les journaux, puis les gens ne marquent pas leur âge, là, sauf de rares exceptions. Mais il y a des recherches qui ont été faites où on est des chercheurs qui sont allés questionner des auteurs. Donc, ils ont pu savoir à peu près quelle était la moyenne d'âge. Et puis, j'aurais de... La difficulté à donner une explication. C'est sûr que bon, les gens à la retraite ont plus de temps. Mm-hmm. Quand on est dans la vingtaine, la trentaine, puis qu'on est au début d'une carrière, on a des enfants, on a peut-être moins le temps aussi d'écrire à des journaux. Mais j'en vois, moi, dans les années 60-70, là, des lettres d'étudiants qui écrivent. Il y en a quand même un certain nombre.
Tu as mentionné aussi l'idée de peut-être faire une cartographie des des lecteurs. Là, je trouve ça super intéressant. Est-ce que, justement, à présent, est-ce que tu as essayé de voir un peu d'où ils venaient? Est-ce que ça vient plus, justement, de quartiers aisés, en ville? Est-ce qu'il y a des gens de la campagne qui écrivent? T'sais, parce que j'imagine que le journal à Québec, par exemple, il est diffusé un peu partout. Fait que, est-ce que tu es capable déjà de faire un petit profil à ce niveau-là?
C'est sûr que ça vient surtout en premier lieu du bassin de diffusion. Bon, par rapport au Soleil, ben, c'est surtout des lettres de Québec, mais on en voit aussi. Bon, le Soleil était peut-être et est moins aujourd'hui, mais était quand même assez diffusé dans l'Est du Québec, au Saguenay, etc. Moi, ce que je vois dans le Soleil, pour les années 60, on voit quand même des gens qui écrivent parfois de Montréal, par exemple. En fait, c'est qu'il y a des gens qui écrivaient... lorsqu'il envoyait une lettre, il l'envoyait comme à 10-15 journaux dans la province. Là. Alors, il voulait juste être publié.
Puis à même Québec, par exemple, est-ce que tu as les quartiers un peu? Parce que Saint-Sauveur puis Sillery, disons, c'est quand même des gens différents habituellement.
C'est ça. Que... Oui, oui. Puis ce qui m'a surpris, là, c'est des résultats quand même assez préliminaires. Mais puis comme je disais, c'est intéressant parce que les gens écrivent vraiment leur adresse très, très exacte. Et puis, il y a beaucoup de gens de Limoilou. Okay. Dans les années 60. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est Limoilou, à cette époque-là, c'est plutôt la classe moyenne, là, ouvrière. Oui, je ne sais pas. Ça reste à explorer.
Peut-être un petit bassin d'intellectuels ouvriers dans Limoilou.
C'est ça.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Pour conclure, si on revient au sujet principal de l'opinion publique, dirais-tu qu'encore aujourd'hui, on peut parler d'une seule opinion publique?
Ben oui et non. Comme je l'ai dit, faut pas aller dans l'autre extrême et dire que bon, on n'a que des opinions publiques complètement étanches qui ne communiquent pas entre elles. Mais je veux dire, on le voit, il y a quand même des valeurs qui sont transpartisanes, qui transcendent les différents paramètres du genre, de l'âge, etc., etc. C'est à ce titre-là qu'on peut parler d'une certaine opinion publique, mais encore là, l'importance des contre-publics là, est vraiment à souligner.
Mais c'est super intéressant. On a déjà hâte de te recevoir pour parler des résultats finaux de ton doctorat à ce sujet.
Pas trop tard, j'espère.
Non, bientôt, bientôt. Mais merci beaucoup d'avoir été là.
Merci à vous.
Merci, Myriam, pour la console. On va se dire à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Et merci d'avoir été là. On va se quitter sur une autre musique de film. Cette fois-ci, l'ouverture du film Citizen Kane d'Orson Welles. Une musique de Bernard Herrmann.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-465-4622.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Voyons, comment ça, ça marche pas? Hey Sophie, essaye donc de chasamer la toune qui joue à radio.
Ça dit que c'est... Cain!
Cain? Hey boy, on est loin d'embarque ma belle.
Quand vous vous demandez...
C'est quoi cette toune-là?
Ne faites pas comme Adrien et Sophie. Allez plutôt sur chiz.ca et cliquez sur l'onglet Musique diffusée. Bonne écoute!
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. C'est Funk Connection qui commence à l'instant. Alors, comme d'habitude, 2 heures de styles différents dans le mélangeur. Alors, on commence tout de suite avec un petit peu de musique brésilienne. Bonne écoute!
Shut up.